R22, tout monde, antenne, corps étrangers.
Je dis bonjour à tout le monde et je remercie Olivier et Louis et Philippa pour l'invitation à participer à ce séminaire. Pour ma part, j'ai eu la chance déjà de pouvoir discuter de pas mal de ces problématiques avec Olivier et dans l'espace Kiasma aussi, la dernière fois lors de l'exposition de Black Code, Kinesis. C'était Kinesis, il y a 2 ans. Donc je vais vous présenter plutôt une évolution d'un projet que je mène, qui est à la fois un projet de recherche et aussi un projet artistique. Et je voulais revenir sur cette question de scène, parce que je vais essayer de faire ma présentation comme étant des moments... des instants fugaces de pensée et des points que je trouve qui peut alimenter l'ensemble de nos conversations. Donc ça va pas suivre vraiment une ligne assez claire, mais ça va naviguer à l'intérieur de récits, d'images et de subjections de suggestions très personnelles. La première fois que j'ai eu à parler de ce que j'appelle les scènes marronnes, c'était en 2004 et c'était sous l'invitation d'un ensemble de collègues qui voulaient réfléchir sur la politique du corps en terrain postcolonial. Et l'une des questions qui m'ont posé avant, c'était pas d'expliquer, mais ils m'invitaient à questionner ce que la recherche et aussi le corps même du chercheur pouvait avoir d'implications sur la recherche. Donc, une sorte de relation assez réflexive sur le sujet connaissant et le sujet qui produit le savoir. Bon, ils m'ont envoyé ça par mail, j'ai trouvé ça intéressant et du coup... Je me suis posé la question à moi-même, quelle était ma place par rapport avec tout ça. Mais il faut dire que cette volonté de savoir m'avait fait penser un peu à Michel Foucault, un peu dans sa dynamique de réflexion où il parlait de volonté de savoir comme quoi quelque chose qui chercherait à normaliser, à contrôler et ou encore à mieux discipliner les corps. Donc, dans ce sens-là, j'aurais pu comprendre que cette préoccupation relevait d'un dispositif policier. Mais loin de tout ça, j'ai trouvé que la question était très pertinente et m'invitait à faire une certaine généalogie de ma trajectoire personnelle au sein du monde universitaire, mais aussi au sein même de ma propre volonté à construire du savoir, à produire du savoir. Et là, du coup, je me suis posé la question suivante. Comment se met-on à penser par rapport à la thématique qui m'était posée? Donc, du coup, je me suis posé cette question pour savoir quels étaient les questionnements et quels étaient les moteurs, les mobiles qui pouvaient intéresser quelqu'un à faire de la recherche sur telle chose ou telle autre chose, quoi. Et il s'avère que les disciplines à partir desquelles je travaille, que ce soit par exemple les études culturelles précisément, la question du sujet qui produit du savoir est une question extrêmement intéressante, à tel point que généralement on prend l'habitude maintenant quand on discute de se positionner comme sujet, de situer notre point de vue avant même de commencer. Donc, ceci étant dit, je ne vais pas élaborer sur cet aspect que vous avez bien compris qui était d'ordre épistémique, mais je vais plutôt avancer sur l'idée que moi, personnellement, par exemple, cette réflexion m'a conduit à mieux comprendre ce que pourrait être une action artistique, c'est-à-dire une action qui mobilisait le corps comme médium, mais en même temps, ce même corps qui produit des gestes, des attitudes dans un espace donné, en réflexion avec cet espace-là. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à, à comprendre cette thématique du corps à la fois d'un point de vue personnel, mais à la fois d'un point de vue situé par rapport à mon emplacement dans la recherche, mais une troisième dimension qui inclut l'histoire collective. Et dans cette histoire collective-là, il faut que je rappelle peut-être que je suis haïtien et je conduis mes recherches ici à Paris. Donc, le dire, c'est extrêmement important parce que il y a plein de, en termes d'expérience, il me semble que quand je suis arrivé ici, il y a pas mal de choses qui me paraissaient assez naturelles et que je découvre qu'ils ne l'étaient pas. Notamment quand on parle de philosophie politique ou quand on parle de sciences politiques et quand on traite des questions en lien avec les révolutions dites modernes, il me semble que quand je dialoguais avec pas mal de collègues, je retrouvais pas cette dimension de parler de la révolution haïtienne, qui est pour moi une révolution qui va jusqu'au bout des principes de ce qu'on appelle lorsqu'on parle de révolution moderne, c'est-à-dire qui inclut les principes de liberté et d'égalité, de fraternité, tout ça. Donc, deuxième partie, je voulais ramener ici, dans le cadre de cette conversation, cette part manquante que j'avais retrouvée dans ce parcours-là. Et je vais partir justement dans cette relation entre corps, qui a entre corps et entre scène fugace, et essayer de voir maintenant aussi comment peut-être que moi je pourrais développer un projet artistique qui inclut à la fois mon corps, ces recherches-là, ces expériences dont je viens de parler de manière très en vrac, et maintenant partager avec vous le spectre de certains corps. Et ces spectres-là vont être traversés à partir d'une certaine lecture, nécessairement une lecture du Code noir, que je ne vais pas revenir ici, parce que, en détail, le Code noir, pour moi, qui est un dispositif juridique qui produit essentiellement un corps scarifié, mutilé, etc. Donc, c'est à partir de cette lecture-là que moi, je comprends ce que pouvait et ce qui pouvait avoir aussi d'émancipateur dans ces corps-là que j'ai parlé, qu'il s'agit des corps marrons. Pour cela, je vais revenir à un extrait de texte que j'ai travaillé. Comme dans un bateau si rempli, on entend un murmure continuel. Mon attention fut réveillée tout à coup par un profond silence. La plus grande partie de notre monde prenait dans ce moment son repas. Mon premier mouvement fut d'aller à l'avant du navire pour voir si chacun était à son poste, dans le cas où les nègres méditeraient quelques insurrections. Comme j'étais à moitié chemin, je vois la porte du fort s'ouvrir. C'était le premier pilote qui venait à moi. Dans le même instant, j'entends retentir un cri de tous les nègres, du ton le plus affreux. Il ressemblait à celui que j'avais entendu lorsqu'il livre bataille. En poussant ce cri, les hommes assis auparavant se levèrent. Ici, il s'agit d'un extrait, c'est un récit qui a l'avantage de postuler en termes d'archives que des scènes de résistance existaient déjà dans la traversée, c'est-à-dire dans le bâtonnet de Guillet, qui est ce dispositif technico-politique à mes yeux, et qui raconte déjà des scènes de résistance qui n'étaient pas forcément vues comme étant déjà des marrons en fuite, parce qu'ils n'étaient pas encore dans la plantation. Et puis l'autre chose que je voulais ramener dans le cadre de cette conversation, c'était maintenant une lecture de ce que j'appelle des scènes marronnes, que moi je considère comme étant des scènes de subjectivation, c'est-à-dire des scènes qui le captif, je dis bien le captif, parce que dans ma lecture, le processus de... En fait, devenir un esclave, c'est déjà épouser un certain point de vue par rapport avec une certaine manière de raconter l'histoire. Donc, les scènes de subjectivation politique que je parle, c'est des scènes, en fait, où le captif expérimente un usage libre de son corps. Et en même temps, c'est une scène, c'est un moment où ce captif-là ou ces captifs créent un espace autre. C'est-à-dire que dans l'espace plantationnaire déjà bien marqué par plusieurs types de divisions et ou de classifications, la possibilité ou bien l'avènement de ces scènes marronnes où le captif favorise ce que j'appelle une nouvelle forme de commun possible. C'est-à-dire qu'il nous invite à penser une nouvelle forme de commun possible. Comme quoi, le système plantationnaire, qu'on peut dire un système très totalitaire, n'était pas la seule possibilité qu'on pouvait avoir dans cet espace-là. Donc, c'est extrêmement important de parler de ça parce que en Haïti, quand on parle de marron, c'est pas quelque chose qui est vu rapidement dans une certaine positivité. Le marron, c'est un peu le roublard, c'est un peu un lascar, c'est un peu quelqu'un qui fuit, qui n'a pas de projet vraiment de liberté. Et en ce sens-là, par exemple, il y a une expression très populaire en créole qui dit que « missier ou manzé ap marron ». Quand on sort cette expression-là, ça voulait dire que, par exemple, quelqu'un qui me doit de l'argent essaie de me fuir, par exemple, pour ne pas rembourser. Donc c'est une expression populaire, courante, qui produit une certaine image de la figure ou des specs du marronnage à l'intérieur même du pays. Donc c'est un peu ces expressions-là qui m'ont permis de retracer une certaine généalogie de cette figure et de vouloir maintenant proposer une lecture qui prend en compte ces scènes comme étant faisant partie d'une histoire discontinue de la liberté des corps, mais aussi de la capacité expressive d'un corps tout court, c'est-à-dire sans être marron, sans être captif et sans être esclave non plus dans un projet quelconque. Et dernière chose, ça c'est un autre point aussi dans le cadre des scènes que tu nous proposes, c'est-à-dire que la survivance de ces specs, de cet esprit-là de marronnage, parcourt aussi tout le 19e siècle, tout le 20e siècle haïtien. Donc ici, vous avez, j'ai pris aussi, bon, tout à l'heure c'est un récit, ici il s'agit d'une archive numismatique où en 1967, l'État haïtien entreprit d'émettre des pièces de monnaie avec l'effigie de Macandal, François Macandal, qui est l'une des figures les plus connues parmi les marrons, en fait. Quand on dit les plus connues, c'est-à-dire qui traverse l'historiographie numismatique, mais aussi l'historiographie tout court.
Oui, il y a un marron révolté qu'on a rendu coupable de 6000 meurtres.
Oui, tout à fait. Entre autres. Parce qu'il est très connu comme quelqu'un qui dispose d'un certain savoir par rapport à des plantes qui pouvaient faire... qui pourrait produire de l'empoisonnement, tout ça. Bon. Mais l'idée que je voulais faire ressortir ici, c'est surtout l'entreprise même de faire circuler cette image au sein de cette société-là, à un moment bien déterminé, c'est-à-dire la seconde moitié du XXe siècle. Et là, vous pouvez voir clairement, la figure, l'image est parlante en elle-même, pas besoin de raconter, mis à part le contexte que j'ai précisé, mais bon, le corps musclé, une machette, le nom Macandal, et pour signifier aussi République d'Haïti, et c'est une pièce de monnaie de 20 gourdes. Est-ce qu'on peut voir la seconde? Et j'ai bien, bon, j'ai voulu bien montrer cette double face, c'est-à-dire l'arrière qui présente la figure du marron, mais aussi l'avant par rapport avec la devise liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire on est en présence d'un État qui se reconnaît dans un certain, dans une certaine ligne, mais aussi qui dit que bon, nous aussi, la question de la liberté, la question de l'égalité, cette question qu'on peut, cette question-là nous intéresse aussi, et voilà à partir de quelle figure on entend parler de cette question politique. Cette pièce de monnaie a circulé pendant 3 ans environ, c'est de 1967 et 1970. J'aurais pu prendre une autre image aussi, mais cette fois-ci, pas une pièce de monnaie. J'ai fait exprès de prendre cette pièce de monnaie parce que c'est ça, ça pour intérêt de montrer comment une pièce de monnaie assez simple circule en fait parmi les gens, quoi. Au-delà de figures qu'on peut trouver dans des espaces beaucoup plus réservé, mais une pièce de monnaie a quand même la facilité de circuler un peu partout. Et puis, bon, ça, on en avait déjà parlé, mais...
Et qui est aussi une corporalité, c'est-à-dire qu'on on la tient dans son, avec soi.
Oui, effectivement, on a fait cette discussion parce que je me suis posé la question suivante, c'est-à-dire que dans le cadre de mes projets artistiques, quand il faut expérimenter quand il faut expérimenter certaines manières de voir, certaines manières de percevoir, comment, à partir de cette expérience-là, traduire artistiquement ces questions-là. Et effectivement, l'idée de murmure nous avait paru assez intéressant dans le fait de lire, dans le fait d'enregistrer une voix, mais aussi la question de ce gestuel-là, à partir de la main, comment on pouvait étudier cette question. Ah, ok. Désolé. Ben, je peux revenir, je pense. C'est une conversation.
On va revenir. Non, c'est juste parce qu'on va essayer de... Moi, je suis le maître du temps, donc j'ai un rôle hyper désagréable, surtout pour quelqu'un bavard comme moi. Mais je me dois de passer la parole à Nadir Comfort. Ça va arriver, hein, ça va. On va revenir, en fait, on va circuler, on reviendra aussi sur ces questions des figures marronnes et sur Mackendal, probablement dans la discussion. Ouais. Mais je voulais passer la parole maintenant à Nadir Comfort.
Okay.